bienvenue dans le podcast Focus Immo Pacifique, le podcast qui va à la rencontre des investisseurs et professionnels de l'immobilier en Nouvelle-Calédonie. Vous souhaitez commencer à investir dans l'immobilier ou trouver de nouvelles sources d'inspiration pour vos projets? Ce podcast est fait pour vous. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Benjamin Rouvérol, gérant d'IFP Patrimoine, société de gestion de patrimoine depuis plus de 25 ans en Nouvelle-Calédonie. Dans cet épisode, nous dépassons la thématique immobilière pure pour s'intéresser à d'autres produits d'investissement que constituent notamment l'assurance vie et les produits financiers qui la constituent. Nous allons également parler des sociétés civiles de placement immobilier, ou SCPI, et de leurs avantages par rapport à l'investissement immobilier classique. Benjamin Rouvérol nous raconte son parcours personnel dans l'investissement immobilier, avec notamment l'achat d'un bien en SCI, et nous apporte ses lumières et conseils sur les thématiques de la constitution de patrimoine, des SCPI, de l'assurance vie, et nous dévoile différentes stratégies à adopter pour se constituer un patrimoine immobilier et financier. Sans plus attendre, accueillons Benjamin Rouvérol. Bonjour Benjamin Rouvérol, bienvenue sur ce podcast. Merci beaucoup de m'accueillir en tes bureaux à donc l'agence IFP Patrimoine qui est basée à Nouméa. Donc aujourd'hui on a une belle journée ensoleillée après plusieurs jours de pluie, ça fait plaisir, ça redonne le sourire. Donc merci beaucoup pour ton accueil. Toi tu es gérant de la société donc IFP Patrimoine. Donc te présenter, brièvement, pour te raconter un peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené en fait à être gérant de cette société, et peut-être que tu pourras après nous raconter un peu tes débuts, notamment ce qui nous intéresse dans ce podcast, c'est l'investissement immobilier, tes débuts dans l'investissement immobilier, et après sur la gestion de patrimoine et financière de façon un peu plus large.
Écoute, bonjour à toi aussi. Donc, je suis gérant de la société IFP Patrimoine. Donc, on a aujourd'hui la gestion de patrimoine, c'est global. On est capable de répondre à toutes les problématiques des clients, que ce soit des problématiques en termes de succession, de donation, de fiscalité, de préparation à la retraite, de capitalisation, ou tout simplement de faire du conseil ou un audit patrimonial. Donc, aujourd'hui, la société, elle a plus de 25 ans. Donc, on a des clients qui sont là depuis plus de 25 ans. Il faut savoir que quand on gère un contrat d'assurance vie, par exemple, les clients qui investissent avant 70 ans ont des avantages fiscaux très intéressants, donc évitent de casser ce contrat après 70 ans. D'accord. Donc on peut suivre des gens pendant plusieurs années en termes de conseils ou de suivi sur leurs encours.
D'accord.
Ensuite, moi, pourquoi je suis arrivé dans ce milieu-là? C'est vrai que moi, j'ai toujours été... Un fan des mathématiques, donc j'ai fait une école d'ingénieur, et ensuite c'est vrai que je voulais vraiment me spécialiser dans la finance, donc j'ai fait un master en finance à l'IAE d'Aix-en-Provence.
D'accord. Ce côté finance, tu l'as eu très tôt dans tes études ou c'est venu après? Comment ça s'est passé?
Non, au début c'était purement des mathématiques, on va dire, appliquées à des probabilités. C'est ça qui me plaisait vraiment. Et puis après, tout ça a pu se développer au niveau finance, au niveau boursier. Donc là, on parle vraiment d'investissement plutôt boursier.
Okay.
Et c'est là que j'ai eu un vrai déclic et que je me suis lancé à fond dans la finance pure, puisqu'après, j'ai commencé ma vie active à Genève, dans la banque, dans un fonds d'investissement comme trader.
Voilà. D'accord. Tu as fait comme une formation de trading, en fait?
En fait, une formation, non. Le trading, c'est simplement des mathématiques, c'est des probabilités.
D'accord.
Aujourd'hui, quand on fait du pur trading, donc on ne va pas acheter une action parce qu'on aime bien tel type de valeur ou tel type de valeur. C'est vraiment en fonction du contexte macroéconomique, des secteurs d'activité aujourd'hui qui sont, on va dire, plus tirés vers le haut que d'autres.
D'accord.
Donc c'est ça. Donc il y a peu de choix, on va dire, il y a peu d'empathie sur du trading pur. Ça reste uniquement des indicateurs mathématiques basés sur des probabilités.
D'accord. Voilà. Et du coup, c'est le côté finance. Finalement, tu gères des hausses et des baisses de prix d'actifs. En fait, donc ce côté-là, finalement, t'attire un peu.
Alors moi, ce qui m'attire, c'est vrai que la finance, c'est quoi? Pour les non-initiés, c'est complètement décorrélé de la réalité. Mais aujourd'hui, quand on investit en finance, on peut investir à la hausse ou on peut investir à la baisse. C'est-à-dire qu'on peut vendre une valeur avant de l'avoir pour la racheter moins cher. qui permet d'encaisser une plus-value. Et donc c'est ce côté-là qui est intéressant, c'est vraiment le côté, on va dire, probabilité, trading pur, sachant que en finance, dans le monde entier, tout le monde a la même information en même temps. Mmh. Voilà. Si quelqu'un a une information avant les autres, c'est tout simplement un délit d'initié.
D'accord.
Donc c'est pénalement répréhensible dans tous les pays du monde. Donc c'est vrai que là, on se bat contre d'autres personnes, entre guillemets, avec les mêmes informations au même moment.
D'accord.
Donc à nous, après, de faire notre propre étude des indicateurs pour prendre telle ou telle position à la hausse ou à la baisse. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est aujourd'hui, tout le monde a la même information, après à chacun à se débrouiller avec.
Et donc tu te lances dans le milieu de la finance via cette première expérience professionnelle. Et est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a amené en fait dans le monde de l'immobilier plus spécifiquement?
Alors,
comment toi tu y es arrivé?
Dans l'immobilier, alors. Exactement. Nous aujourd'hui, on est capable de vendre des SCPI, des sociétés civiles de placement immobilier.
D'accord.
C'est de l'immobilier, mais aujourd'hui c'est considéré comme un produit financier. Et donc un produit financier ne peut être vendu que par un CIF, un conseiller en investissement financier. Un produit financier peut être vendu avec un conseil.
D'accord.
Donc, seules les sociétés de gestion de patrimoine peuvent vendre des SCPI.
De même, je veux dire que quelqu'un de lambda ne peut pas débarquer devant un gestionnaire de SCPI et dire « tiens, je voudrais acheter une part de SCPI ». Il faut passer par un intermédiaire en fait.
Il faut passer par un conseil, par une société qui va se porter garante et qui va faire un conseil. Et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, donc en France ou en Nouvelle-Calédonie, on fait partie du code monétaire français. Et donc, tout ça, ça reste, toute ce conseil autour de la finance est pénalement répréhensible.
D'accord.
Donc ça, c'est ouais, extrêmement réglementé et ça ne peut être fait que par des conseillers en investissement financier. Parce qu'on fait des opérations de banque et tout ça,
c'est très parce que comme tu le disais un peu en off avant l'épisode, vous avez en tant que gestionnaire de patrimoine plusieurs casquettes.
Exactement, on a toutes les casquettes, mais
énormément de responsabilités en fait.
Voilà. Donc on est responsable sur tous les conseils qu'on fait et toutes les ventes qu'on fait. C'est pour ça que quand un client vient, on est obligé de lui faire signer un document d'entrée en relation, on est obligé de faire une lettre de mission. Ensuite, on remplit avec lui un relevé d'informations patrimoniales.
D'accord.
On récupère ses objectifs et on fait un profil de risque. Voilà. Et avec ça, on est capable de vendre le produit qui correspond à l'objectif du client en fonction de son horizon d'investissement. Ouais.
Ça, c'est vraiment le cœur de ton métier finalement quand tu
le
reçois.
Le cœur du métier, c'est de faire un audit patrimonial, de récupérer les objectifs et d'y répondre. Et après, là, il y a une multitude de solutions en termes d'optimisation fiscale, de revenus complémentaires, de capitalisation, de préparation à la retraite.
Ouais, disons que c'est la première étape que tu fais quand il y a quelqu'un qui vient te voir ici, c'est d'étudier son profil.
C'est la première étape qui est réglementaire et qui est obligatoire.
Profil de risque.
Voilà. Contrairement aux courtiers d'assurance qui, eux, aujourd'hui, reçoivent un client, lui font signer un contrat d'assurance vie, mais ils sont simples courtiers. Il n'y a pas de conseil.
Oui, tout à fait. Hein.
Pas de conseil dans le courtage.
Alors, c'est vrai que c'est un monde qui est hyper vaste. Dans ce podcast, on a des investisseurs débutants, il y a aussi des investisseurs plus expérimentés. Donc, est-ce qu'on peut refocus un peu sur le côté SCPI, fameuse société civile de placement immobilier? Et puisqu'apparemment, toi, tu as commencé, ton premier achat immobilier était une part de SCPI. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire?
Alors, les SCPI, donc, ça reste un placement, on va dire, donc c'est un produit financier, c'est de l'immobilier et ça existe depuis plus de 30 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens parfois le découvrent. Parce qu'aujourd'hui, on a des SCPI qui sont de plus en plus, on va dire, à thème et qui parlent aux gens. On a des SCPI qui vont investir dans des cliniques ou des maisons de retraite. On a des SCPI qui vont faire que de l'immobilier parisien. Et donc, c'est vrai que c'est un produit qui plaît beaucoup en Nouvelle-Calédonie puisque les gens, en général, veulent capitaliser, veulent profiter des taux bas, veulent se diversifier et pas spécialement acheter en Calédonie. Mais quand on est à 20 000 km, c'est toujours très compliqué d'acheter à distance et surtout, c'est compliqué de gérer.
C'est clair. Ouais,
très compliqué de gérer de l'immobilier en direct. Et souvent, les rentabilités ne sont pas aussi bonnes que ce qu'on peut l'espérer.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont aujourd'hui se tourner vers les SCPI, des gens qui habitent en Calédonie et qui vont pouvoir capitaliser sur un crédit immobilier avec des facilités. Puisque aujourd'hui, nos banques partenaires vont prêter sans aucune garantie, donc sans apport, sans domiciliation des revenus, avec des taux qui sont relativement bas, et ce qui permet de capitaliser tout de suite. Les SCPI, l'avantage, c'est qu'en général, le prix d'une part, c'est 200 euros.
Ouais.
Donc, on peut capitaliser à partir... l'investissement est un multiple de 200 euros. Quelqu'un qui veut investir à crédit sur 10 ou 15 000 euros sur 20 ans, c'est possible, et ça fait un effort d'épargne qui est ridicule. Voilà.
D'accord.
Voilà l'intérêt. Même intérêt, quelqu'un qui veut investir une grosse somme aujourd'hui, pour peut-être réduire cette somme au bout de 2-3 ans, même si son crédit part sur 10, 15, 20 ou 25 ans, il va pouvoir vendre 10, 15, 20 ou 30 parts pour réduire les remboursements, les mensualités qu'il peut avoir.
Ça, c'est...
Voilà l'intérêt. Donc, moi, c'est vrai que quand je me suis retrouvé ici, avant d'acheter ma résidence principale, j'avais une envie de capitaliser et de profiter des taux qui étaient bas, sans spécialement avoir envie de gérer.
Tu peux nous replacer le contexte, c'est quelle année à peu près où du coup tu te lances dans ton achat de part de SCP?
Donc ça, c'était il y a 4 ans.
Okay.
C'était,
c'est assez récent.
C'est assez récent, mais les montages maintenant pour les non-résidents fiscaux sont assez récents. Avant, c'était plutôt réservé à des résidents fiscaux français.
D'accord.
Et avec la baisse des taux et avec l'augmentation des liquidités sur les marchés, les banques cherchent de nouvelles solutions pour financer. Voilà, parce que la banque gagne de l'argent en faisant du crédit. En même temps, la banque, elle gagne de l'argent en limitant son risque.
D'accord.
Donc, c'est toujours compliqué de prêter à quelqu'un en direct, même si c'est le plus bel appartement avec le meilleur locataire, parce que le locataire, quand il n'y en a qu'un seul, s'il n'est plus là, il n'y a plus le locataire.
D'accord.
Il faut se retrouver seul à payer la charge. Donc, les banques ont développé avec des sociétés de gestion parisienne ce type de montage, où elles vont financer des SCPI pour des résidents et des non-résidents assez facilement, donc sans accord, sans garantie. Et c'est ça qui marche plutôt bien en Calédonie.
Voilà, okay.
Voilà l'idée. Donc, okay. Moi, j'ai sauté sur l'occasion pour pouvoir justement emprunter une petite somme et tout de suite capitaliser rapidement. Et c'est à l'époque où j'ai eu mon premier enfant. Du coup, j'ai pris une assurance emprunteur tout simplement pour avoir un capital d'essai.
Okay. C'est très riche tout ça. Déjà, la première chose, c'est que donner la possibilité aux expats, je dirais, ou des gens qui ne sont pas résidents en métropole, de pouvoir investir dans l'immobilier en métropole, parce que c'est bien un investissement dans un immeuble physique.
Alors oui, c'est même un parc immobilier complet. Hein.
Tout à fait. Donc, pour bien expliquer aux auditeurs, on achète une part d'un immeuble, d'une résidence.
Alors, on achète une part d'un parc immobilier.
Un parc immobilier.
Voilà. Donc aujourd'hui, par exemple, Primo Pierre, qui est l'immobilier parisien, le prix de la part, c'est 208 euros.
Okay.
Et on va, sur les 208 euros, on va prendre une petite partie des 70 immeubles que possède la SCP.
D'accord.
Donc c'est infime.
Mais c'est vraiment à la portée, je dirais, de n'importe qui, quoi.
Ah, c'est à la portée de n'importe qui, et c'est ça l'intérêt, c'est d'être propriétaire foncier à partir d'une petite somme.
Voilà. Donc aujourd'hui, un jeune Calédonien peut venir chez toi et dire, tiens, je veux une part de SCPI, je mets 200 euros.
Je veux être propriétaire, et voilà, je veux acheter des parts de SCPI.
Et c'est pas
en cash ou à crédit. À crédit, on va faire le montage. Évidemment, à crédit, la banque a un devoir de conseil, donc vérifie juste que l'endettement de la personne physique qui va emprunter correspond après aux mensualités qui vont être remboursées.
D'accord. Et donc, ce que tu disais aussi, le gros avantage, finalement, c'est qu'il n'y a finalement pas de frais de gestion, pas de gestion physique.
Exact. Il n'y a pas de gestion physique, mais il y a des frais de gestion qui sont prélevés trimestriellement par la société de gestion qui va gérer la SCP. Mais les rendements qu'on a sont toujours nets de tous les frais qu'il peut y avoir.
Et bien parlons-en. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu des chiffres, justement?
Oui.
Donc,
bien sûr.
Les rendements, c'est vrai qu'on entend souvent parler des rendements de 4, 5, 6%.
Mm-hmm.
Alors, souvent, on parle du rendement brut. Le calcul de rendement, c'est souvent fait par les investisseurs. Les gens, avant d'investir, calculent ce fameux rendement pour voir est-ce que l'investissement va être rentable ou pas.
Mm-hmm.
Et on peut aussi le calculer sur les SCPI.
Alors sur les SCPI, c'est extrêmement simple, parce que les SCPI sont des sociétés civiles de placement immobilier. Donc c'est des sociétés françaises avec un objet social dans leur statut.
Mmh.
Et la SCPI ne peut faire que de la gestion ou de l'acquisition de biens locatifs. Et elles sont soumises donc à un contrôle assez strict de la part de l'AMF et de la Banque de France, où derrière, elles doivent publier leurs chiffres chaque trimestre et annoncer les rendements qu'elle distribue. Donc
c'est les loyers qui sont rentrés.
Exactement. C'est les loyers qui sont redistribués une fois que tous les frais ont été payés. Et donc là, on arrive à un rendement, et ce rendement est toujours net de tous les frais qui ont été prélevés. Et donc on a un rendement net sur plusieurs années. Donc on peut faire soit une moyenne, soit voir l'évolution du prix de la part, soit essayer d'anticiper les futurs rendements.
Donc ça, c'est bien, parce que c'est des chiffres qu'on a déjà à l'avance pour quelqu'un qui souhaite investir en SCPI.
C'est les chiffres qu'on a. On n'a pas le rendement qu'on va toucher.
On connaît l'historique.
L'intérêt de la SCPI, c'est que les locataires sont des personnes morales qui s'engagent sur des baux commerciaux.
Ouais.
Donc maintenant, on a la durée des baux restant à encaisser sur En général, on a entre 5 et jusqu'à 12 ans pour les meilleurs SCPI. Okay. Donc, une SCPI qui a obtenu un rendement, qui a distribué un rendement de 5% l'année d'avant et qui a une dizaine d'années de baux restant encaissés, on sait que le rendement va être autour des 6%, sauf si, évidemment, il y a des nouveaux baux qui rentrent, qui sont un petit peu moins chers, qui peuvent faire baisser un peu le rendement.
Ah, d'accord.
Dans les SCPI, souvent, le rendement des SCPI a tendance à baisser en ce moment. Pourquoi ? Parce que le prix de la part augmente.
D'accord.
Tout simplement. Donc, les gens qui seraient actionnaires depuis assez longtemps vont avoir une augmentation du prix de la part et ne vont pas perdre, ne vont pas avoir de diminution de revenus. En revanche, les nouveaux actionnaires vont acheter plus cher le prix de la part, donc ils vont en avoir moins et ils vont encaisser les mêmes revenus. Donc, le rendement peut baisser un petit peu. C'est pour ça qu'on le voit légèrement baisser depuis quelques années. Aujourd'hui, en moyenne, il se situe autour des 4,5%
D'accord.
sur la moyenne des SCPI en 2017. Après, évidemment, on a des SCPI qui surperforment le marché.
Okay.
Il y en a d'autres qui font moins bien. Voilà.
D'accord.
Donc après, celles qui surperforment, c'est celles qui ont vraiment aujourd'hui fait une analyse précise du marché, qui vont investir plutôt dans les pays européens émergents ou en Allemagne. La fiscalité est plus faible.
Ouais,
il faut
savoir
que les impôts sur le revenu en Allemagne sont de 14-75%.
Effectivement.
Et en Italie et aux Pays-Bas, il y a aussi des bonnes opportunités à faire.
D'accord.
Voilà.
Ah, c'est intéressant. Du coup, ce fameux rendement, c'est la somme des loyers, des 12 loyers finalement sur le prix d'achat, hein, c'est bien ça ?
Exactement.
C'est et fois 100. Donc, c'est comme ça qu'on calcule un rendement. Et c'est ces fameux 4,5%. Et qui c'est pas, finalement pas si mal, puisque c'est, comme tu dis, tout frais de gestion inclus.
Exactement.
C'est-à-dire que, on n'a pas à gérer le locataire. Forcément, on n'a pas non plus à se déplacer s'il y a un robinet qui a changé ou à contacter le plombier.
Voilà. Il y a le plus intéressant, c'est qu'on a une vraie mutualisation du risque.
Ouais.
Et c'est ça qu'il faut anticiper, parce que c'est bien d'avoir des rendements aujourd'hui qui donnent des chiffres très intéressants, mais il faut aussi anticiper le cas négatif. Mmh. C'est demain une grave crise, on va dire économique ou grave crise immobilière. La SCPI perd 10% des locataires, ce qui serait donc énorme, hein, puisqu'on parle de multinationales.
Tout à fait. Ouais.
Peut-être que dans
les
locataires,
quelques noms
alors SCPI,
de locataires finalement.
Locataires, si on
oui, de quartier,
donc
Paris.
On a une SCPI qui n'investit que sur Paris. Mmh. Enfin, qui investit principalement à plus de 80% sur Paris. Donc, les locataires vont être plutôt des multinationales bien connues. On va avoir Primo-Pierre de Primovie possède le siège social d'Alstom sur plus de 17 000 m².
Ouais, donc c'est pas rien.
Voilà, donc c'est vrai que l'intérêt, c'est d'avoir une société comme Alstom ne va pas changer son siège social du jour au
lendemain. Tous les 4 matins, effectivement.
Voilà. Et puis après, les locataires très connus comme La Poste, la SNCF, Coca-Cola, Colgate. Crédit Agricole, Peugeot,
c'est Galerie Lafayette, j'ai vu aussi sur.
Galerie Lafayette, oui, ça c'est une autre thématique.
Okay.
Donc ça va être on a une SCPI qui va avoir comme thème les locaux commerciaux.
Okay.
Donc les principaux locataires vont être Galerie Lafayette, Decathlon, Castorama, Darty, Orange.
Oui, très grosses enseignes finalement qu'on connaît.
Très grosses enseignes et qui sont solvables. Voilà. Okay. L'intérêt c'est de mutualiser le risque avec des entreprises qui ont les reins solides. Ouais. Et alors, c'est pour ça justement que les banques prêtent sans garantie. Demain, quand vous achetez un parc de 70 immeubles sur Paris avec des locataires de qualité qui s'engagent sur des baux, la banque elle a confiance.
Ouais,
les immeubles
ne
vont pas partir en courant et Peugeot ne va pas faire faillite demain.
Ouais, voilà, c'est vrai que pour les gens qui ont déjà investi dans l'immobilier, souvent les banques demandent des garanties, il y a soit la caution, soit l'hypothèque.
Mm-hmm.
Effectivement,
souvent
les deux, même quand on dit il n'y a pas de garantie demandée par la banque, c'est assez bluffant, je dirais, pour quelqu'un qui fait de l'immobilier classique, entre guillemets. Et c'est tout à fait intéressant en ce sens où si quelqu'un fait de l'immobilier classique, souvent c'est du logement,
mm-hmm,
c'est souvent à côté de chez soi. Il y a la gestion locative, on peut déléguer à une agence, bien entendu, mais l'intérêt, c'est comme tu disais aussi, de diversifier.
L'intérêt, surtout sur la SCPI, c'est d'acheter des biens qu'on ne pourrait pas acheter.
On
ne peut pas acheter 20 mètres carrés dans le quartier de la Défense.
En soi,
c'est pas possible.
Effectivement.
Donc là, on peut investir dans des immeubles complets en mutualisant le risque.
Et le fait de diversifier, pas que du logement, mais aussi du commerce. Par exemple des maisons de retraite.
Bien sûr, oui.
Ça. Puisque finalement, s'il y a une crise, dans la stratégie d'investissement. Qu'on peut
exactement, on a des SCPI qui sont plus ou moins prudentes.
Tout à fait.
On aura moins de potentiel de plus-value sur une SCPI qui va investir en province dans des cliniques ou des maisons de retraite de type EHPAD que sur Paris. Mais évidemment, il y a aussi moins de risques d'ailleurs que le marché se retourne au niveau macroéconomique. Parce que les gens vont continuer à aller dans leurs EHPAD ou dans leur clinique, alors que c'est vrai que l'immobilier de bureaux sur Paris peut peut-être baisser en cas de crise de économique. Ouais.
Donc, super, merci pour ce conseil de SCPI. Enfin, en tout cas, on découvre ça sur ce podcast, on n'avait jamais entendu parler jusqu'à présent. Donc, c'est vraiment une belle opportunité, je trouve, pour diversifier son patrimoine. Tous les avantages que t'as pu porter, même si effectivement dans l'immobilier classique on peut trouver parfois des super affaires avec des super rendements, mais ça demande beaucoup de travail en général. La bonne opportunité, effectivement on va pas peut-être pas avoir les rendements à 10% dans une SCPI parce que effectivement tout est délégué. Disons que c'est le chemin le plus facile, mais disons que c'est vraiment une bonne solution.
Oui, c'est évidemment une source de diversification, sachant que la priorité c'est la résidence principale.
Ouais, c'est
la principale parce que c'est le meilleur moyen pour capitaliser. La SCPI c'est on va dire c'est de la capitalisation pure parce qu'on va jamais habiter dans ses bureaux ou dans sa maison de retraite, hein. mais la priorité c'est la résidence principale, surtout en Nouvelle-Calédonie où il y a des avantages fiscaux qui n'existent plus en France. Sur lesquels il faut profiter, et ils ont été d'ailleurs renouvelés, même augmentés, puisque maintenant on peut déduire les intérêts d'emprunt de la résidence principale sur 20 ans.
Chose qu'il n'y a pas en métropole.
Chose qu'il y avait, mais qu'il n'y a plus.
Qu'il n'y a plus, ok.
Voilà. Pareil pour les travaux, donc on peut déduire 1 million de francs de travaux par an. Évidemment, c'est en déduction du revenu imposable.
1 million de francs, c'est quoi? C'est à peu près
8 400 euros.
Voilà. Pour les auditeurs de métropole qui ne connaissent pas le franc CFP.
8 400 euros qu'on peut déduire du revenu imposable. Et donc, la tranche la plus haute en Calédonie, c'est 40%. Donc, ça peut faire des économies substantielles. Ouais, sachant que pour ceux qui ne connaissent pas la fiscalité, la tranche à 40% en Nouvelle-Calédonie est assez basse puisqu'elle est à 37 000 euros. Alors qu'en France, la tranche à 41% est à 71 000 euros.
D'accord.
Par part.
D'accord.
Par part sur le foyer fiscal.
Donc, il y a des conditions quand même plus avantageuses en Calédonie.
Alors, il y a des plus avantageuses sur les produits qu'on peut défiscaliser.
Oui, tout à fait. Voilà. Okay. Et du coup, toi, c'est ce que tu as fait. Tu as acheté tes parts de SCPI. Est-ce que tu as fait d'autres investissements immobiliers?
Alors moi, je suis entrepreneur, donc évidemment, j'ai fait un crédit perso pour racheter cette société.
Ok.
Voilà, puisqu'il faut investir et quand on est jeune, on a pas souvent des sommes importantes en cash, donc il faut profiter de l'effet de levier bancaire et emprunter. Donc, pour éviter d'avoir une belle résidence principale et de me retrouver, on va dire, bloqué au niveau de l'endettement,
j'ai acheté
la société avant. Ensuite, j'ai acheté donc les bureaux dans lesquels nous sommes.
Ok. Donc, est-ce que tu peux nous les décrire un peu, parce que c'est
vraiment...
Quasiment vu sur mer sur la baie de l'Orphelinat.
Oui, c'est vrai qu'on est très impatients, on a eu de la chance. Mais donc, c'est une maison, c'est un monument historique calédonien qui a 80 ans.
D'accord.
Et qu'on a complètement rénové il y a 2 ans, puisque c'était complètement termité. Voilà. Donc, la mairie nous imposait de refaire des ouvertures identiques. Donc, on est sur des ouvertures à la française qui étaient en bois. Et donc, là, on a refait la même chose en aluminium. Donc, c'est vrai qu'on a. C'est assez compliqué de retrouver des ouvrants à la française en Calédonie, mais on a réussi à trouver une boîte qui nous a fait ça.
Donc finalement, tu reconstitues les carreaux d'origine de la bâtisse, en fait.
Enfin, en fait, c'est des ouvrants à la française sur un seul, il y a une seule vitre, et on met des petits bois pour faire imitation carreau.
D'accord.
Ce serait trop compliqué en aluminium de faire des petits carreaux.
Et disons qu'il y a un aspect pierre et colombage, en fait, vu d'extérieur. C'est un bâtiment qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir en Nouméa. Et ça fait vraiment un cachet particulier. Il y a 2-3 petits immeubles, en fait.
Mais oui, c'est ça.
Dans ce quartier qui sont comme
ça. Avec des grosses maisons basses. Et voilà, donc on a rénové ça. Et puis c'est vrai que ça fait un côté ultra moderne à l'intérieur et plutôt rustique à l'extérieur.
Vraiment pas mal.
C'est vrai que ça plaît bien.
Est-ce que tu peux nous dire un peu les chiffres?
Alors,
puisque les gens s'intéressent effectivement.
Les chiffres sur l'immobilier est assez cher en Calédonie.
Tout à fait. C'est bien aussi de pouvoir comparer à d'autres villes de France.
Voilà, donc aujourd'hui, ici, on se situe à peu près, c'est un des quartiers les plus chers, donc c'est qu'en Calédonie, c'est quand même un petit peu particulier. D'un quartier à l'autre, on peut avoir des prix qui s'envole du simple au double.
Tout à fait.
Et donc là, on est sur une base, je crois qu'on est à peu près à entre 4000 et 5000 francs le mètre carré.
D'accord.
Voilà. Mais c'est des locaux qui sont exceptionnels.
Ok. Et ça, travaux compris, tu as, à l'époque, toi, tu as financé également les travaux via crédit.
On a tout à fait, on a intégré une enveloppe. Donc dans le montage, pour être précis, donc évidemment qu'on a fait, on a tout optimisé. Donc on a fait une SCI à l'IS, complètement indépendante de la structure d'exploitation qui est IFP Patrimoine.
D'accord.
Et donc IFP Patrimoine loue une partie des locaux puisqu'on a un deuxième étage qui est loué aujourd'hui à d'autres personnes morales. Et dans le montage, donc on l'a fait à l'IS pour pouvoir justement ne pas payer de fiscalité pendant quelques années puisqu'on peut amortir le bien. Donc là, le bien, on l'amortit sur 20 ans comptablement.
D'accord. Tu peux nous expliquer un peu plus la différence entre une SCI à l'IS et une SCI
à l'IR.
Voilà. Dans les deux cas, est-ce que ça procure comme avantage, en fait?
Voilà. Donc, dans les deux cas, quoi qu'il arrive, c'est la SCI qui est propriétaire, qui a le titre de propriété. Une SCI à l'IR, derrière, c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir faire amortir comptablement le bien. Pourquoi ? Puisque du coup, les revenus vont être réintégrés dans l'IRPP, l'impôt sur les revenus de personnes physiques.
Et l'IR, c'est donc l'impôt sur le revenu, c'est toi en nom propre finalement. Hein. C'est,
exactement.
C'est qui achète.
Tout à fait. Alors que, mais bon, la SCI, donc à l'IR, peut avoir un avantage en cas de succession, puisqu'on peut déjà faire rentrer les enfants pour quelque part et ensuite les céder. L'avantage sur la SCI, donc à l'IS, c'est qu'on va pouvoir...
Impôt sur les sociétés,
l'IS. Sur les sociétés, tout à fait. C'est qu'on va pouvoir déduire toutes les charges. Voilà. On va pouvoir déduire toutes les charges, on va pouvoir amortir le bien comptablement. L'inconvénient, c'est qu'en cas de revente, évidemment, on va payer l'impôt sur la plus-value à partir du premier euro.
D'accord.
Puisque la SCI va les zéro à la création. On a mis un bien dedans. Si la SCI, on la revend à la valeur du bien X millions... X millions de francs CFP, hein, bien sûr. Et bah, du coup, on va payer l'IS qui est à 30% en Calédonie sur la totalité de la plus-value.
D'accord.
Et chose qui n'est pas le cas l'IR.
Chose qui n'est pas le cas, d'accord. Ouais. Donc, tu as choisi, du coup, finalement, de déduire plutôt tout ce qui est frais réels, travaux, et choisir cette structure à l'IS.
Exactement. C'était le plus simple pour nous.
Ok. Parce que, oui, j'imagine, les travaux, moi, ça me paraît quand même. Les travaux, le coût des travaux me semble plus cher ici. Au mètre carré, si tu fais par exemple, je sais pas, du carrelage ou des peintures. Alors après, ça se discute, c'est vrai, dans les grandes villes ou pas. Mais...
Oui, ça, ici, c'est vrai que quoi qu'il arrive, la vie est un peu plus chère.
Ouais.
Bon, après, faut être capable de regarder, de comparer les différents matériaux qu'on peut trouver.
Okay.
Et puis de négocier un petit peu. Ouais, tout est négociable.
Ok, super. Et du coup, merci pour cette expérience. De ton investissement personnel.
Ouais.
On va peut-être parler, donc tu investis après sur ta résidence principale.
Oui.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton quotidien, qu'on en a un peu parlé sur la gestion de patrimoine. Tu parlais donc de placement financier, d'optimisation fiscale. Bien sûr, on en a parlé les SCPI, les assurances vie, tout ce qui est aussi... droit de succession, enfin la succession, comment ça s'organise. Tu conseilles en fait sur toutes ces parties en fait de l'investissement pur, mais aussi ce qui se passe pendant et après.
Bien sûr, alors la gestion de patrimoine, nous on fait de la gestion globale. Voilà. Donc on a toutes les cartes, on a toutes les compétences juridiques pour répondre aux questions en termes de succession, de donation. On est capable de faire du démembrement. On est même capable de vendre des SCPI en démembrement temporaire pour des gens qui ont un problème de fiscalité ou inversement qui voudraient avoir plus de revenus.
D'accord, et ça veut dire quoi?
Le démembrement temporaire, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut très bien acheter la nue propriété d'une SCPI sur 15 ans. Ça veut dire avec une décote. Voilà. C'est la même chose pour l'immobilier en direct.
Okay.
Donc c'est vraiment de l'achat de nue propriété. Donc aujourd'hui, une SCPI qui vaut 208 euros par exemple, on peut très bien dire, écoutez, moi la SCPI, je la veux, mais je vais l'acheter, j'aimerais avoir la pleine propriété que dans 15 ans. Okay. Du coup aujourd'hui, elle vaut 208 euros, mais j'achète 140 euros.
D'accord. Voilà. C'est-à-dire que tu n'es pas propriétaire en fait.
Si.
En nue propriété, c'est quoi la différence?
La différence, c'est qu'aujourd'hui, en pleine propriété, vous avez, quand on est en pleine propriété, on a et la nue propriété et l'usufruit. Donc on a les fruits et la propriété. Voilà. Si on n'achète que la nue propriété, on n'a pas les fruits du bien. Donc tous les loyers, on ne les encaisse pas, ils sont pour celui qui possède la nue propriété en face.
D'accord.
Et inversement, quelqu'un qui achèterait en démembrement temporaire de l'usufruit sur un bien aurait des revenus qui seraient beaucoup plus importants pendant 10, 15 ou 20 ans, par exemple.
D'accord.
Mais donc en fait, la pleine propriété, on peut la démembrer en nue propriété ou en usufruit uniquement.
Finalement, tu désolidarises les deux, en fait.
Hein, exactement. Voilà.
Okay.
Et la pleine propriété, c'est l'addition des deux, l'usufruit et la nue propriété.
Et c'est quoi l'avantage d'être en nue propriété?
L'avantage d'être en nue propriété, par exemple, c'est d'acheter le bien avec une décote,
ouais.
Du coup, de ne pas avoir de revenus, et donc, du coup, pas d'imposition.
Effectivement, pas de revenus, pas d'imposition, mais par contre, ta part peut augmenter, en fait.
La part peut augmenter, mais quoi qu'il arrive, on récupérera la pleine propriété au bout de 15 ans. On peut donc, du coup, acheter des SCPI en nue propriété avec un crédit immobilier. Dans ce cas-là, on peut déduire les intérêts d'emprunt, ce qui fait un déficit foncier sans revenu. Ce qui permet d'être le déficit foncier, on peut l'utiliser sur un autre bien, ou on peut très bien faire un mix pleine propriété,
d'accord,
nue propriété, pour ne pas avoir d'impôt sur les revenus fonciers qu'on peut générer.
Donc ça, c'est une stratégie finalement pour augmenter son déficit foncier. C'est pas mal comme,
tout à fait.
Comme levier, on va dire. Pour un
c'est le genre de produit qu'on peut proposer pour des clients qui auraient un problème de fiscalité ou qui veulent capitaliser sans faire de déclaration d'impôt.
D'accord.
Voilà.
Ok, c'est assez intéressant. Je ne pensais pas que c'était possible, tu vois, de faire ça.
Ici, maintenant, on a des SCPI. On peut être propriétaire en pleine propriété des SCPI qui, elles, n'ont que de la nue propriété, à l'intérieur. Voilà. Comme la SCPI Patrimo-Croissance.
D'accord.
Donc, sur la SCPI Patrimo-Croissance, le prix de la part augmente tous les mois.
Ok. Donc là, dans ce cas-là, c'est vraiment intéressant.
Dans ce cas-là, c'est intéressant. Après, il y a des gens qui ont plus un souci de diminuer l'effort d'épargne, d'augmenter leur revenu, plutôt que de ne pas avoir de revenu et pas de fiscalité.
Effectivement, ouais. Voilà. Ouais, effectivement.
Et après, on a d'autres montages en assurance vie que l'on peut conseiller à des clients. Mais on peut mettre maintenant des contrats, enfin des SCPI dans des contrats d'assurance vie. Du coup, on a de l'immobilier sans déclaration d'impôt à faire et sans aucune fiscalité. En cas de succession. Alors pourquoi sans aucune fiscalité en cas de succession? Ça, c'est un cas particulier de la Nouvelle-Calédonie.
Juste avant d'aller plus loin, l'assurance vie, c'est un produit.
C'est un des produits qu'on propose.
Comment on pourrait qualifier? C'est comme un contrat, en fait. Hein.
L'assurance vie, c'est comme un compte bancaire dans une enveloppe fiscale.
D'accord.
Voilà.
Et donc ça bénéficie d'avantages fiscaux. C'est-à-dire on paye moins d'impôts, hein, concrètement, dans ce cadre d'assurance vie. N'importe qui aujourd'hui peut.
Alors on paye moins d'impôts. On paiera pas moins d'impôts en cas de. Enfin, on paye moins d'impôts pour dans le capital qui est placé.
D'accord.
Si derrière, il n'y a pas de retraits qui sont faits avant 8 ans, par exemple.
Ouais, il y a des conditions.
Il y a des conditions. Ouais. Et les conditions en Calédonie sont extrêmement avantageuses, puisqu'aujourd'hui, on a seulement 10% d'impôts les 8 premières années sur la plus-value.
D'accord.
Donc quelqu'un qui investirait. Alors là où en France, on peut être à 60% les 4 premières années.
D'accord.
Et
ouais,
ensuite, au-dessus de 40%. Donc, il y a un vrai intérêt, surtout dans le calcul en plus de l'imposition qui est faite par le fisc. Voilà, que ce soit en Calédonie ou en France, c'est le même principe. Si aujourd'hui vous avez un contrat, vous avez 10 millions sur votre contrat, au bout d'un an vous faites 10% de plus-value, vous faites 1 million de plus-value. Là, je parle toujours en XPF. Hein,
France AFP, tout à fait.
Ce qui fait à peu près 80 000 euros. Mais donc, vous avez 11 millions au bout de 12 mois, vous décidez de retirer ce million. Pour le dépenser,
ouais.
L'administration fiscale considère que vous avez retiré 900 000 francs de capital et 100 000 francs d'impôt. Et donc vous avez 10% d'impôt sur les 100 000 francs, ce qui fait 10 000 francs d'impôt.
Donc c'est retenu en fait tout simplement.
Voilà. Hein, c'est extrêmement faible.
Ok, effectivement, c'est vraiment intéressant.
Ouais. Et en Calédonie, on a une particularité puisqu'il n'y a pas d'impôt en cas de succession de façon illimitée si les fonds ont été versés après les 70 ans. Donc là, je parle pour les héritiers, si les héritiers sont en Nouvelle-Calédonie.
D'accord.
Donc là, c'est vrai qu'en France, on a un abattement de 152 000 euros.
Tu veux dire avant 70 ans?
Avant 70 ans,
ouais.
Pour les héritiers, bien sûr.
C'est-à-dire faire une succession, en fait, du contenu, en fait, du capital. Comment ça se passe, en fait?
Alors, aujourd'hui, il y a un bénéficiaire qui est désigné.
C'est ce que je voulais te demander, en fait. Oui. Est-ce que le contrat est transféré sur les héritiers ou est-ce que c'est un retrait?
Alors, le contrat n'est jamais transféré quoi qu'il arrive puisque c'est un contrat viager, si on veut, donc c'est un dénouement automatique en cas de décès.
D'accord.
C'est le cash.
Donc c'est retiré et c'est reversé aux héritiers.
Exactement. C'est le contrat, il est tout simplement, il est racheté. en cas de décès. Et donc c'est du cash qui est redistribué aux héritiers légaux.
Qui peut par la suite lui-même soit rouvrir une assurance vie avec ou le garder pour autre chose.
Exactement, et c'est là où aujourd'hui il n'y a pas de fiscalité en Nouvelle-Calédonie pour les héritiers résidents en Nouvelle-Calédonie.
Zéro fiscalité
sur le capital.
C'est vrai que c'est pas courant de pas avoir d'impôt sur, bah, sur une succession, on va dire. C'est vrai qu'on...
L'assurance vie ne rentre pas dans la succession.
D'accord.
Ouais. Comme en France. En France, l'assurance vie ne rentre pas dans la succession. En revanche, il y a un abattement de 150 000 euros. Ensuite, il y a 20% d'impôt entre 150 000 et 800 000, je crois. Et au-dessus, c'est 25-30%.
Donc, tu es imposé sur à partir de certaines tranches, c'est ça, hein?
Exactement.
Ok. Ouais.
Mais l'assurance vie ne rentre pas dans la succession.
D'accord. Super.
Voilà.
Super.
Donc, il y a un vrai intérêt en Calédonie. Donc, nous, en termes de conseils, évidemment, quoi qu'il arrive, il n'y a aucun placement plus rentable à la sortie. Que le placement où derrière il n'y a pas de frais de succession.
Ouais, tout à fait.
Aucun intérêt de gagner 10% par an si lors de la succession il y a 40% d'impôt.
Effectivement. Et
c'est à prendre en compte.
Ouais. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que souvent on pense à court terme ou à moyen terme et on oublie souvent quand on a 20 ans, 30 ans, quand on ouvre une assurance vie, on ne pense pas à la succession. Mmh. Effectivement, et c'est bien d'avoir ça en tête même si bah, ce n'est pas le plus important tout de suite. De pouvoir l'avoir en tête et d'optimiser déjà à la base son placement.
La priorité aujourd'hui, c'est vrai que pour des gens qui sont jeunes, c'est de capitaliser.
C'est ça.
Une fois que le capital est créé, c'est de le placer en succession, donc avant 70 ans. Donc là, les gens investissent rarement avant 60 ans dans un contrat assurance vie uniquement pour l'optimisation fiscale.
Voilà. En tout cas, peut-être les auditeurs, il y a certains qui sont concernés par ça et qui peuvent déjà passer à l'action, je dirais.
Oui,
s'ils ont des contrats d'assurance vie.
S'ils ont bientôt 70 ans, il y a peut-être un conseil à faire.
Voilà. Et donc finalement, ce qui est intéressant, c'est que l'immobilier, via la SCPI notamment, c'est une partie en fait de ce que tu gères dans l'ensemble de tes comptes, en fait, de tes portefeuilles de placement. En fait, c'est on a de l'immobilier, mais tu peux aussi avoir des actions dans une assurance vie.
Exactement.
Comment tu appelles ça? Des obligations.
Des obligations, des OPCI, des
un
CPI,
d'actifs
structurés,
en fait.
Tout à fait, ou des produits à terme. Alors, après, c'est vrai que là, c'est un autre sujet. C'est nous, on peut faire du conseil en investissement financier, donc on fait de l'allocation d'actifs dans des contrats d'assurance vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la compétence pour choisir les produits sur lesquels on va investir. En ce moment, on investit plutôt sur des actions européennes. Demain, ce sera peut-être des pays émergents. Demain, ce sera peut-être le Brésil, la Chine. On a ce choix-là. Contrairement au courtier qui, lui, investit dans un fonds dynamique équilibré, nous, on crée nos propres contrats, on va dire.
Voilà.
Et on les arbitre en temps réel. Et derrière, le client peut suivre ses contrats d'assurance vie aussi en temps réel sur notre site internet.
D'accord. Et donc, peut-être qu'on a perdu des débutants ou des gens qui ne sont pas du tout habitués à ça, mais une action concrètement, c'est quoi? C'est comme si c'était une part de société.
Une action ou une SICAV ou une OPCL, donc c'est, on va dire.
C'est ce qui permet à l'entreprise de vivre.
L'action, voilà. Donc l'action, c'est ce qui permet à l'entreprise de lever des fonds sur le marché pour derrière investir.
Donc voilà. Des gens comme toi et moi disent bah, « Tiens, je vais acheter 10 actions de telle entreprise. » Et on est propriétaire du coup.
Exactement, propriétaire pour un tas de ce que vous avez mis, d'une partie du capital. Voilà. Le capital, à un moment donné, il a été ouvert sur le marché pour pouvoir récupérer des liquidités pour investir.
D'accord.
Donc on peut acheter des actions. En général, sur les contrats d'assurance vie, c'est plutôt des fonds d'actions qu'on va acheter. D'accord. Ou des unités de compte, on appelle ça.
Okay.
Des unités de compte qui peuvent être, on va dire, soit prudentes, soit des unités de compte vraiment dédiées sur le marché français, soit des actions américaines et dans des paniers d'actions.
D'accord, c'est ça qui est, je trouve, intéressant parce que via ces unités de compte, tu peux accéder, toi en tant que personne lambda, à tout un tas de produits en fait que tu pourrais difficilement faire par toi-même. Via Internet, c'est de plus en plus facile, je dirais, mais. Disons que, comme tu disais, tu peux vraiment placer ton argent sur plein de produits différents.
Alors aujourd'hui, on peut vraiment faire une vraie analyse macroéconomique et être réactif surtout. Voilà. C'est-à-dire changer de stratégie, changer de pays, changer de profil de risque. Tout ça, on peut le faire rapidement. Et c'est l'intérêt parce que aujourd'hui, les marchés sont très volatiles. Ça peut aller très très vite. Là où c'était quand même un petit peu plus lent, il y a quelques années. Ouais. Il y a 10 ans en arrière, il fallait presque peut-être 15 jours pour passer un arbitrage sur un contrat d'assurance vie. Aujourd'hui, on fait tout en signature électronique.
Ouais, ouais.
Même à 20 000 km, c'est immédiat. Donc d'accord. Ça, c'est un vrai plus. Ouais.
Concrètement, c'est quoi s'il y a comme un krach boursier pour être direct, enfin, s'il y a un problème dans les cours, tout s'effondre, on peut rapidement...
Alors, s'il y a un krach boursier, évidemment, c'est extrêmement compliqué de passer un ordre dans la minute.
Ouais, dans l'idée, s'il y a...
Après, si vraiment la bourse baisse, comme en 2008-2009, bah, elle a baissé pendant 7 mois.
Okay.
On a le temps d'arbitrer.
Effectivement.
S'il y a un krach boursier et qu'il y a un attentat comme le 11 septembre,
ouais, où là, c'est juste impossible. En 5 minutes, tu ne peux pas réagir, c'est sûr.
C'est impossible de pouvoir l'anticiper.
Disons, tu es beaucoup plus réactif qu'avant. Ouais.
Mais on est beaucoup plus réactif. Et de toute façon, les marchés sont plus volatiles. Donc, ils demandent plus de réactivité.
Et donc, je trouve vraiment ça intéressant pour quelqu'un qui ne fait que de l'investissement immobilier, qui n'a jamais entendu parler d'assurance vie ou d'action, qui est un peu frileux parce que la bourse. C'est vrai que parfois, ça peut être dans l'esprit des gens connoté négativement ou connecté à risque. Et donc, on s'y met pas, on s'y lance pas. Il y a parfois un côté éthique. La bourse n'est pas éthique, ça crée des famines dans le monde, etc. Mm-hmm. Mais en fait, je pense qu'il y a une réelle méconnaissance des choses. Et c'est intéressant d'en parler et d'apporter ces informations aux personnes parce qu'il y a un réel intérêt sur ces produits. Moi, je trouve, en tout cas, en tant que déjà investisseur immobilier, de pouvoir se diversifier sur les marchés financiers et à aller sur des produits, on peut très bien acheter des entreprises qui font par exemple de l'énergie solaire ou je sais pas, quelque chose d'éthique.
Oui, bien sûr. Ou, alors aujourd'hui, la vraie problématique, c'est plus d'avoir du rendement. Donc là, les gens nous font confiance pour chercher du rendement, ils vont pas nous imposer d'investir dans une boîte qui fait quelque chose de bien mais qui gagne pas d'argent. Voilà. Et c'est un peu le problème de la bourse. Si la boîte est en bourse, c'est pour faire du rendement, c'est pour gagner de l'argent.
Tout à fait.
Sinon, voilà, si c'est pour faire.
Mais tu as quand même une flexibilité sur tes choix finalement de fonds, etc. Je voulais...
Exactement. On a une flexibilité complète. On peut choisir exactement où on veut investir, sur quel type de produit. Et en bourse, il n'y a pas que les investissements ultra risqués sur le type d'action. On peut investir sur des paniers, on va dire, d'obligations d'État qui seraient relativement prudentes. On peut investir sur des fonds euros.
Ouais.
Nous, aujourd'hui, on possède le fonds euro Sécurité Pierre Euro de l'assurance vie de Sérène Pierre.
D'accord.
Où on a un rendement de 3,40% net en 2017. Donc, il reste encore des solutions pour aller chercher un peu de performance en limitant les risques, si c'est le souhait du client.
D'accord.
Après, nous, c'est notre rôle dès le début de faire un audit patrimonial. Quelqu'un qui veut être dynamique sur 6 mois,
voilà, raconte-nous un peu
très
comment,
compliqué de prendre des risques. Quelqu'un qui est prudent sur 10 ans et qui a 35 ans aujourd'hui, bah, c'est dommage de ne pas prendre un petit peu de risque.
Ah, c'est ça. Donc, le lien en fait, entre fort rendement, c'est-à-dire des rendements 8, voire supérieurs à 10%,
mais...
qui sont dits dynamiques ou risqués, parce qu'effectivement, on a un risque de perdre une partie de son capital.
On a un risque surtout de volatilité importante.
À court terme.
Voilà, à court terme.
Au moins.
Tout à fait.
Et ce que tu dis donc, un profil moins risqué. On va dire des rendements qui vont être plus faibles, on a une assurance de récupérer son capital en fait n'importe quel moment ou ce genre de garantie là pour vraiment par exemple sur des fonds euros.
Oui, bien sûr, mais après ça dépend vraiment du profil de risque et souvent les gens n'ont jamais été conseillés donc ne veulent pas prendre de risque parce que ils ont peur de faire une mauvaise opération. À nous de les rassurer, de les conseiller, d'être complètement transparent. Et quelqu'un qui a un profil de risque dynamique, qui a accès à son portefeuille en temps réel, ça le rassure.
Voilà. Ouais,
si demain vous êtes sur une assurance vie lambda et que vous avez une situation de compte tous les ans et que tous les ans c'est la surprise, c'est plus 10 ou moins 10, c'est vrai que les gens ont pas envie d'être dynamiques.
Ouais, effectivement. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu, avec ton expérience, les chiffres que tu as en tête sur les 10 dernières années ou les 20 dernières années sur les performances des divers fonds que tu peux proposer toi?
Alors c'est compliqué parce que
c'est tout un tas de fonds. Je sais que la
c'est
question...
plutôt non mais c'est très simple de répondre sur le passé. Après ce qui intéresse les gens c'est le futur.
Ouais, mais disons que en se basant sur le passé, c'est-à-dire se dire quelle
sur
performance
le passé, il y avait des choses qui paraissaient évidentes, les biotechnologies, il y avait les nouvelles technologies américaines, ce sont des valeurs qui ont explosé.
Ouais.
Mais voilà, après c'est l'idée maintenant, c'est de savoir quelle est la future valeur qui va exploser.
Ouais, c'est ça aussi.
Donc là, c'est vrai qu'on l'a vu. Alors nous, on est aujourd'hui, il y a un sujet qui est intéressant et puis on est directement concerné, c'est le cobalt.
D'accord.
Le cobalt, en 2016, il était à 26 ou 28 000 dollars la tonne. parle du cobalt parce qu'on en produit dans le sud de la Calédonie.
Okay.
Et c'était pas un produit qui était très recherché. C'était ça coûte cher, mais c'est peu utilisé. Et aujourd'hui, avec l'explosion, on va dire des moteurs électriques, le cobalt s'approche des 100 000 dollars la tonne. Donc il a quasiment triplé, quadruplé en quelques mois. C'est impressionnant. Et ça, c'est ce type de produits ou de situations économiques.
C'est des nouvelles opportunités, quoi, finalement.
C'était une opportunité. Maintenant, le Bitcoin, c'était une opportunité. Maintenant, il faut trouver un autre produit.
Voilà. D'accord. Effectivement.
Mais ça pouvait être anticipé. C'était ça, évident. Le cobalt pour les moteurs électriques en 2016, c'était presque une évidence. Mais pourtant, il n'y a pas grand monde qui a pensé.
En tout cas, ça, effectivement, ce que tu cites, c'est vraiment les valeurs qui permettent de faire des gros rendements.
Oui, tout est possible.
À moyen, court terme. Mais
qui dit gros rendement, dit grosse volatilité, donc dit aussi grosse perte, évidemment.
Est-ce que tu es capable, toi, aujourd'hui, de dire à quelqu'un qui vient te voir, par exemple, ou quelqu'un qui s'intéresse, c'est sur tel fonds, on a tel historique. Par exemple, on se base sur un historique à 8 ou 10% de rendement.
Oui.
Sur les 20 dernières années, on peut très bien se placer sur le curseur sur ce profil-là et espérer que ça continue. Effectivement, il peut y avoir des arbitrages, mais enfin,
il y aura des arbitrages. Voilà. Après, il y a d'autres solutions qui vont aussi rentrer en compte. C'est demain, on a quelqu'un qui ouvre un contrat assurance vie, qui fait des abondements mensuels. On peut très bien être prudent et équilibré sur un contrat assurance vie, être très dynamique sur les abondements mensuels. Pourquoi ? Parce que le marché baisse, le client va acheter moins cher tous les mois. Il va moyenner à la baisse, mais sur des petits montants.
D'accord.
Et quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard, le marché remonte. Tout l'investissement qu'il a fait,
il
va reprendre de la valeur immédiatement. Et c'est là qu'on peut arbitrer.
D'accord.
Inversement, un marché qui monte, s'il achète tous les mois, tous les mois il gagne. Donc on peut aussi arbitrer.
D'accord.
En général, nous, ce qu'on fait pour nos clients, c'est évidemment, quoi qu'il arrive, on n'est pas dynamique tout de suite. On essaye de faire une année ou deux en étant équilibré, en essayant de valider des plus-values pour ensuite prendre un peu plus de risques, mais sur des plus-values.
Voilà. D'accord.
Le type de stratégie qu'on met en place pour éviter d'être ultra dynamique. Sachant que les marchés aujourd'hui sont plutôt hauts aux États-Unis, ils sont peut-être hauts aussi en Europe. Enfin, il faut se méfier. Voilà. Donc moi, je suis plus aujourd'hui méfiant.
D'accord.
Investir
on regarde et on voit ce qui se passe.
On regarde les opportunités, on essaie d'arbitrer assez rapidement et surtout, on essaie de rentrer moins cher. Il y avait une petite opportunité, on va dire, mi-février, où le marché a bien baissé. Et puis après, c'est à nous justement d'être réactifs. Et pour ça, c'est vrai que chaque conseiller en gestion de patrimoine, chaque cabinet a l'obligation d'avoir un agrégateur de contrats. Donc nous, tous les contrats de toutes les compagnies d'assurance sont agréés chez Minimor, et ce qui nous permet justement d'être réactifs et de voir en temps réel tous nos fonds, tous nos contrats et tous nos clients, et de voir s'il faut arbitrer ou pas certains contrats.
C'est très riche tout ce qu'on a dit depuis le départ. On a parlé des SCPI qui permettent d'investir soit avec des fonds propres, soit à crédit, à crédit bancaire, comme un immobilier classique. On a parlé des assurances vie où on peut mettre des parts de SCPI à l'intérieur, aussi d'autres types de produits comme des actions ou des obligations.
Mmh.
Les obligations, c'est un peu comme des crédits d'État, hein, c'est ça.
C'est une créance.
Une créance des États, par exemple la France ou l'Allemagne en plein temps, c'est des obligations
françaises. Ou tout simplement de grandes entreprises.
Et finalement, tu peux, dans un contrat d'assurance vie, mettre tes fonds propres, un capital de départ, et aussi faire des versements mensuels, comme tu le disais. Et d'où là ma question, en fait, deux grands types d'investissement qu'on pourrait décrire. Un jeune ou n'importe quel actif, enfin une personne physique qui travaille, qui a soit un peu d'épargne, qui peut le placer en capital, et une autre personne qui n'a pas du tout d'épargne, mais qui peut chaque mois verser, 5 000 francs, 10 000 francs, donc voilà, 50 euros, 100 euros par mois.
Oui.
Qu'est-ce que tu leur conseillerais, en fait, à ces deux personnes? Est-ce que les deux peuvent se porter sur le même produit?
Aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas 50 solutions pour les gens qui veulent capitaliser. Il faut utiliser l'effet de levier bancaire.
Ouais.
Ça, on arrive facilement à l'avoir avec la résidence principale. Voilà. Et ensuite, pour avoir un effet levier bancaire, il faut emprunter. Et la banque ne prête que pour acheter de l'immobilier.
D'accord.
Soit l'immobilier locatif, soit la résidence principale, soit des SCPI.
D'accord.
Donc la priorité, c'est de s'engager aujourd'hui sur des taux bas, sur des longues durées, pour des gens qui sont jeunes, monsieur.
Ok. Donc ça, c'est vraiment l'un des conseils qu'on pourrait donner.
Exactement. Hein, une bonne entreprise, c'est comme un bon particulier, il faut être endetté. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Aucun intérêt aujourd'hui de prendre un crédit immobilier sur 7 ans, si dans 7 ans, vous allez encore être en situation active, ouais, puisque vous allez devoir recapitaliser, et c'est peut-être à ce moment-là que les taux seront à 5 ou 6.
Oui, parce qu'on explique bien aux gens, un investissement immobilier à crédit, en face, il y a quelqu'un qui paye un loyer, finalement qui paye la traite, contrairement à un crédit à la consommation qui n'a rien à voir, qui endette, on va dire, dans le mauvais sens du terme, la personne, puisqu'elle doit rembourser par exemple une voiture ou
elle rembourse un bien qui vaut déjà moins cher que le crédit.
C'est ça.
L'immobilier, c'est souvent
C'est ce fameux effet de levier, finalement, le crédit bancaire, où on emprunte de l'argent qui est remboursé par une tierce personne en priorité. Et bien sûr,
le capital est remboursé en partie par le locataire.
Voilà, en partie, ou si on arrive vraiment à
la différence, c'est donc l'effort d'épargne qu'on doit faire, s'il y a un effort d'épargne à faire.
Voilà, s'il y a un effort d'épargne, finalement, c'est très faible et ça s'amortit finalement au bout des années et le bien revient à la personne finalement qui l'a acheté.
Oui, après, c'est une vraie stratégie patrimoniale puisqu'on peut aussi avoir une assurance emprunteur sur le crédit pour protéger son conjoint, son concubin ou par exemple ses enfants. On peut aussi. On va dire, emprunter sur 20 ans pour acheter des SCPI, pour capitaliser, et puis sortir au bout de 5 ou 6 ans pour derrière faire un apport pour un projet qu'on a qui nous tient à cœur. Voilà, donc il y a plein de solutions, mais les SCPI, ça te permet de garder toutes les options. Voilà. De les revendre, de faire une revente partielle, de les garder, de capitaliser, d'être assuré. Voilà, donc c'est aujourd'hui, c'est. Les gens aiment bien la flexibilité et aiment bien, on va dire, tout ce qui est un petit peu. Facile d'utilisation et la SCPI aujourd'hui on revend beaucoup plus vite ses parts que l'immobilier en direct.
Ouais, tout à fait.
Voilà. Demain le marché se tend un petit peu. Aujourd'hui le marché est plutôt on va dire favorable aux SCPI. Il faut entre 4 et 6 semaines pour sortir de ces SCPI. Sur l'immobilier classique, il faut déjà trouver l'acheteur. Et ensuite, il y a toujours cette période de 3 mois
ouais,
où on est sous compromis.
Le notaire, etc.
Donc, peut-être qu'un jour, il faudra plus longtemps pour sortir des SCPI si le marché se tend, mais ce sera pareil. Il y aura toujours ce délai, on va dire, ce spread
entre les
deux. Peut-être que ce sera aussi plus long sur l'immobilier en direct.
Ouais. Et du coup, tu ne parles pas d'assurance vie pour une personne. Il n'y a pas de levier bancaire. Enfin, il n'y a pas de levier.
Alors, l'assurance vie,
mais
c'est
ça
important.
Permet, je dirais, moi, extérieurement, on peut, étant jeune, se projeter sur des rendements plus importants.
Oui,
on n'aurait pas dans une SCPI.
Non, même si quelqu'un qui n'a pas de capital, ça règle le problème, parce que du coup, c'est compliqué d'investir en assurance vie. L'idée, c'est de commencer, c'est de mettre on va dire, le pied à l'étrier, de prendre un petit contrat et d'être dynamique. Oui, quelqu'un qui a 10 ou 20 ans devant lui et qui met une petite somme, il peut être dynamique, surtout s'il fait des abondements tous les mois. En Calédonie, on a la chance, nous, de pouvoir défiscaliser, on va dire, 275 000 francs, donc 2400 euros tous les ans sur le revenu imposable.
D'accord. Donc c'est quoi? C'est ce que tu verserais sur ton compte d'assurance vie?
C'est 2400 euros ou c'est 275 000 qu'on verse sur le contrat chaque année. On peut les déduire du revenu imposable.
Déduit du revenu imposable. Ouais. Déduit de la base en fait. Imposable.
Exactement. Quelqu'un qui est dans la tranche à 40%, ça fait 40% de 275 000 francs. Donc ça fait 110 000 francs d'impôt en moins à payer chaque année.
D'accord.
Sur de l'argent, on va dire, sur un produit de capitalisation.
Ok.
Donc ça c'est intéressant. Donc c'est vrai qu'en Calédonie, on conseille tout le monde à ce petit contrat pour défiscaliser qui va garder 8 ans et sur lequel il pourra déjà on va dire, préparer un peu sa retraite ou un projet futur. Ensuite, dans l'assurance vie, enfin, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle stratégie patrimoniale, il faut garder du cash en cas de besoin. Aucun intérêt de mettre tout son cash partout bloqué, puisque demain on se retrouve à avoir besoin d'une petite
bien sûr, il faut toujours penser
à
ce matelas de sécurité.
Déjà, exactement. Donc, cette petite somme, en général, elle peut être mise soit sur un livret A, soit sur un compte courant, soit on peut très bien mettre ça sur un contrat d'assurance vie dédié, sachant que les fonds sur assurance vie, on peut les récupérer sous 3 semaines, 1 mois maximum.
D'accord.
Donc, oui, donc l'assurance vie, c'est un véhicule qui est indispensable et d'autant plus en cas de.
Ok, super. Bah, je crois qu'on a énormément appris en t'écoutant. On a parlé d'immobilier, de placement. Financiers hein, qui sont autre chose que l'immobilier, mais qui aussi permettent bah, de faire travailler son argent, je dirais, plutôt que de laisser sur un livret A l'ensemble de son capital, de finalement ramasser quelques miettes, parce qu'aujourd'hui, le taux de livret A sont pas exceptionnels, hein, on va dire, c'est moins de 1%. Hein.
0,75.
Ouais, 0,75. Donc merci pour tous tes conseils et tes explications. Je pense que les gens déjà ont un éventail de solutions et de peut-être de possibilités d'investissement qui est complètement élargi. Mm-hmm. Est-ce que tu veux bien passer aux trois questions que je pose à tous les gens qui passent derrière ce micro? Donc première question. Est-ce que tu peux nous citer une référence en fait qui t'a inspiré dans ta vie? On parlait de déclic tout à l'heure,
ça oui, permet exactement.
De penser dans cette activité de gestion de patrimoine, ou est-ce que quel déclic t'as eu toi dans l'immobilier? Voilà. T'as une référence, un livre, un auteur?
Alors moi j'ai eu un déclic, mais c'était plutôt, on va dire de façon générale, en finance. Ouais. Ça a été mon professeur d'économie à l'IAE d'Aix-en-Provence.
Ok.
Donc ça remonte à l'époque où je faisais une formation, je finissais mon école d'ingénieur et je faisais ce master-là en même temps. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Et je pense que le lendemain, j'ai ouvert un compte titre chez Boursorama et je prenais okay. des positions sur le marché.
Ouais. Ouais, c'est vrai que...
Donc, c'était pas vraiment focalisé sur l'immobilier, mais c'était vraiment de la finance pure, de l'analyse. Et, ouais, et tout de suite, j'ai accroché et puis après, j'ai arrêté.
Ouais, ce prof t'a ouvert les yeux en fait sur cette possibilité, t'as accroché en fait.
Exactement. C'était vraiment un vrai déclic.
C'est vrai que souvent, il y a beaucoup d'histoires comme ça où des gens ont le déclic à l'université en écoutant un prof. Il y a aussi des histoires comme ça dans l'immobilier où je connais une histoire. Enfin, c'est une femme investisseur immobilier assez connue sur le web. Mm-hmm. Elle racontait que elle, ce qui a donné le déclic, c'est un des profs à l'université. C'était peut-être au Québec. Qui a dit, si vous voulez vous enrichir, investissez dans la pierre.
Ouais.
Et genre l'année d'après, elle a acheté ses trois premiers appartements. Quoi.
Ah ouais.
Bah, quoi, elle avait la vingtaine, tu vois.
Elle a suivi le conseil.
Ouais. Ouais. Donc, ok, super. Deuxième question, est-ce que tu peux nous citer une phrase inspirante, un proverbe?
Alors, c'est pas un proverbe, mais c'est quelque chose que je dis et les gens ont l'impression de tomber des nues un peu à chaque fois. Et je l'ai dit d'ailleurs dans l'interview. Et ça va être valable aussi pour les personnes physiques. C'est,
ouais.
La phrase, c'est une bonne entreprise est une entreprise endettée.
Ok. Ouais.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment aucune entreprise qui va avoir une marge en dessous de 6, 7, 8, 10% dans les services bancaires, par exemple, on est sur 20% de marge nette.
D'accord.
Et aujourd'hui, on emprunte à 2, 3, 4. Donc, empruntons pour faire la croissance externe, empruntons pour faire la croissance interne, puisqu'on emprunte à 3 ou 4 et l'argent nous rapporte.
Ah, effectivement.
Et c'est exactement le même principe pour un particulier. Moi, j'ai des amis qui me disent, voilà, nous, on a 40 ans, on a payé notre résidence principale, on n'a plus de crédit. Je dis, ok, super, vous allez faire quoi? Bah, rien, on n'a plus de crédit, on a toujours appris de ne pas avoir de crédit.
Ouais, non, mais
au contraire,
c'est ça.
Je veux dire, ces gens-là vont se retrouver à 60 ans avec une belle résidence principale et aucun revenu.
Ouais,
aucun intérêt. Ouais. Donc aujourd'hui, il faut s'endetter au maximum de ce que l'on peut, bien sûr, sans être surendetté, mais il faut investir.
Ouais, ouais.
Et profiter des taux qui sont bas, signer, on va dire, des crédits immobiliers sur des taux fixes bas.
Ouais, bah t'as tout dit, je crois. C'est vrai que sous cet angle, effectivement, profiter des taux d'intérêt faibles, parce que la croissance.
Et ça, c'est une chance pour les gens qui ont moins de 40 ans comme nous, ouais. Vraiment en profiter.
Ouais. Et peut-être que les taux vont remonter les prochaines années, donc c'est bien d'en profiter dès maintenant.
Exactement. Il faudrait que les taux remontent et que l'immobilier continue à se stabiliser, remonter un petit peu. Voilà. Il ne faudrait pas que ce soit qu'il y ait un phénomène de taux qui remonte et d'immobilier qui baisse.
Ok, bah super pour ce conseil. Et du coup, bah, on en a un peu parlé déjà, mais qu'est-ce que tu dirais à un jeune Calédonien ou une personne qui souhaiterait investir ou acheter sa résidence principale pour se loger, mais qui n'ose pas se lancer? En fait, on a souvent des réticences parce
bien
que,
sûr.
Effectivement, quand on n'a jamais investi, faire un crédit, c'est beaucoup d'argent, c'est impressionnant.
Bien sûr.
Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est des gens qui remettent tout le temps ça demain ou parce que ce n'est pas le bon moment.
Oui. Après, bon, y a des gens qui ont une petite appréhension. Et puis, il y a des gens, c'est un petit peu particulier en Calédonie, mais qui ne vont peut-être pas rester, qui vont partir, mais ils ne savent pas quand. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se voit encore au moins 4 ou 5 ans en Calédonie, il faut acheter. Voilà. Après, en Calédonie, c'est vrai que le marché est assez cher. Il y a des frais de notaire qui sont assez élevés. Donc, il faut vraiment que ce soit un investissement sur quelques années, en tout cas pour la résidence principale. Voilà. Mais il ne faut pas hésiter à se lancer. Et en revanche, quelqu'un qui hésite parce qu'il n'arrive pas à trouver son bien, toi qui hésite, il peut très bien se lancer en achetant plus petit que prévu et le louer par la suite, s'il veut, ou le revendre par la suite.
Donc finalement, c'est commencer petit pour dépasser un peu ses peurs pour le cadre d'un investissement.
Oui, bien sûr, il y a plusieurs situations, mais oui, commencer à quoi qu'il arrive, il faut aujourd'hui commencer et s'engager sur, comme on disait, sur des taux qui sont intéressants aujourd'hui et qui sont fixes, qui ont un vrai intérêt.
Parce qu'après, finalement, un appartement, ça se revend.
Ça se revend, on peut très bien faire une mauvaise opération.
3-4
ans, ça se revend. Après, on peut très bien faire du locatif derrière et avoir une partie qui est remboursée par le locataire. Même si ce n'est pas une bonne opération, en général, on perd peu d'argent sur du locatif.
Tu perds moins, en tout cas, que si tu payes ton loyer sans être soit propriétaire ou soit sans investissement.
Exactement.
C'est vraiment ça.
Après, il y a un ratio à bien calculer, c'est entre le prix qu'on pourrait louer et le bien qu'on achète. Si demain l'appartement que vous louez à 100 000 francs par mois, vous l'achetez, ça vous coûte 300 000, bah, peut-être que c'est plus intéressant, la différence, de le replacer sur des CPI où là où il y a un vrai rendement.
D'accord.
Après, ouais, tout ça, okay. Ça se calcule. Mais en général, aujourd'hui, avec les taux qu'on a, il faut mieux acheter.
Ok, super. Voilà. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour tous ces conseils. Où est-ce qu'on peut te trouver? Est-ce que tu veux donner ton contact?
Alors, nous, on est à la Baie de l'Orphelinat. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez très bien envoyer un mail sur l'adresse contact@ifp.nc.
D'accord. Tout ça, ce sera réinscrit dans les notes de l'épisode. Donc, vous retrouverez tout ça sur les notes de l'épisode, sur vos plateformes podcast et également sur le Facebook du podcast.
Bien sûr. Et puis, on a un site internet aussi sur www.ifp.nc où il y a toutes les informations sur les stratégies patrimoniales, la gestion de patrimoine global, les CPI, l'assurance vie, et même un petit simulateur d'achat des CPI à crédit sur 10, 15, 20, 25 ans.
Ouais, j'ai vu ton site, il est vraiment pas mal, beaucoup d'explications, très riche aussi en informations, donc allez-y, franchement, c'est un bon détour à faire, surtout si vous n'y connaissez rien. Donc voilà, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Tu as quelque chose à partager? Un message à faire passer si
Non,
tu veux.
Non, après, moi, le seul message que j'ai à partager, c'est n'hésitez pas à rencontrer un conseiller en gestion de patrimoine qui vous donnera un conseil, et le conseil peut déboucher sur un produit ou un autre. Mais nous, on fait du conseil avant tout. On va pas vendre une SCPI parce qu'on a envie de vendre une SCPI.
Super. Voilà. Merci Benjamin Rouvérol pour cet échange.
Mais de rien, merci beaucoup.
À très bientôt peut-être sur ces sujets. Et je vais te laisser à tes rendez-vous parce que tu as une journée encore très chargée apparemment.
Très bien, écoute, merci et à bientôt. Et puis au plaisir pour un nouveau sujet.
Merci et à bientôt également aux auditeurs pour un autre épisode. Ciao, ciao.
Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode du podcast. Alors, puis-je vous demander un petit service? Laissez un commentaire sur iTunes. Cela aidera d'autres personnes comme vous à trouver le podcast et à être inspiré par les professionnels et entrepreneurs interviewés chaque semaine. Je vous dis merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode du podcast Focus Immo Pacifique. Ciao. We'll be right back.